Bonjour à tous et à toutes. Alors, ce message, je l'ai intitulé « Une enquête sur Jean, l'interpellation et la mise en examen ». Alors, j'espère que vous comprendrez un peu au fur et à mesure. C'est un peu comme une enquête policière, mais c'est parce que c'est Dieu qui m'a interpellée et du coup, je me suis mise à examiner les choses. Voilà, on ne va pas accuser Jean de quoi que ce soit ce matin, mais on va essayer de mener une petite enquête. Dans les derniers mois, j'ai lu les quatre évangiles à la suite. Et tout à coup, dans l'évangile de Jean, un changement notable dans la relation des faits a attiré mon attention. Et ça concerne justement le temps de la dernière Pâque vécue par Jésus. Et comme notre pasteur nous l'a rappelé, Eric, aujourd'hui, partout dans le monde, des millions de chrétiens fêtent le dimanche des Rameaux, ce moment où Jésus est entré comme roi sur le dos d'un ânon qui marchait sur les branches et les rameaux que la foule déposait comme un tapis rouge devant lui. La semaine de la Passion s'ouvre et nous conduit vers le sacrifice ultime de Jésus. Le don de sa vie pour nous racheter, nous sauver. Alors que nous entrons dans cette période de notre calendrier judéo-chrétien, j'ai eu envie de partager mes remarques et mes recherches à ce sujet avec vous. Alors, pour ne pas tout vous servir sur un plateau, j'aimerais d'abord vous poser quelques questions. Ça me permettra de savoir si je suis la seule à ne pas avoir remarqué les choses. Et si donc je suis la seule à ne pas toujours être concentrée en lisant ma Bible. Alors la première question, hormis celle de Jésus, combien de résurrections sont-elles mentionnées dans le Nouveau Testament? Est-ce que quelqu'un le sait? Est-ce que quelqu'un a envie de lancer un chiffre? J'ai entendu deux, là-bas trois. Ah, elle ne triche pas parce qu'en plus, elle a la réponse sous les yeux. Non, en fait, il y en a sept. Je parle bien dans le Nouveau Testament, je ne parle pas que des évangiles. Donc, je vous les cite rapidement. Si vous voulez les références, vous venez me voir à la fin, je vous les donnerai. Mais sinon, ça prend trop de temps de tout bien citer dans le détail. Donc, il y a le fils de la veuve de Naïn dans Luc. Le fils du chef de la synagogue dans Luc et la fille du chef de la synagogue dans Marc. Il y a Lazare, dont on va parler ce matin. Il y a les tombeaux qui s'ouvrent et les morts qui ressuscitent au moment de la mort de Jésus. Il y a Tabitha, cette jeune fille qui était malade. Et il y a un jeune homme qui était endormi sur le bord d'une fenêtre pendant que Paul enseignait. Donc, il y en a sept. Ensuite, deuxième question. Quels sont les événements racontés par Jean qui se sont déroulés alors que Jésus se dirigeait vers Jérusalem? Donc je vous répète la question, que vous la compreniez bien. Quels sont les événements racontés par Jean qui se sont déroulés alors que Jésus se dirigeait vers Jérusalem? Alors il y a Jésus qui guérit un, ou selon les récits, Jean ou d'autres, deux aveugles. Oui ou non? Donc, Jésus va vers Jérusalem, Jean nous raconte des événements. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte, cette guérison? Donc, je vois plusieurs qui font non de la tête. Effectivement, Jean ne raconte pas ça. Jésus ressuscite Lazare pendant qu'il va à Jérusalem pour la Pâque. Non plus. Vous avez raison, c'est juste avant qu'il aille à Jérusalem. Il y a la discussion autour de la place de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée, qu'ils auront au ciel. Donc, cette discussion a lieu pendant que Jésus va à Jérusalem, selon Jean. Ah ben, vous avez faux, là. C'est encore non. On verra pourquoi. Et enfin, Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Eh bien non, pas chez Jean. Ah ah ! Donc on a tellement l'habitude de lire les textes qu'on ne sait plus qui raconte quoi, en fait. Et c'est ce qui se passait aussi pour moi. Ensuite, dernière question, parce qu'on ne va pas non plus prendre trop de temps sur ce petit quiz. Qui habitait à Béthanie ? Pas toi, d'accord. Moi non plus. Alors, Lazare, Marthe, Marie, il y a quelqu'un d'autre. Eh bien, je ne le savais plus, mais effectivement, il y a une quatrième personne dont on nous parle dans les évangiles, c'est Simon le lépreux. Et ça a son importance parce qu'on va parler d'un repas que Jésus a pris avec ses amis. Et en fait, ce n'est pas chez Marthe et Marie, ce repas, c'est chez Simon le lépreux. Donc, c'est tous des petits détails. On pense savoir, mais en fait, on mélange un peu parce qu'on a plusieurs évangiles. Alors, moi, je me suis posé des questions. J'ai cherché, j'ai fouillé, je vous rappelle, parce que j'avais lu tous les évangiles à la suite. Et j'ai trouvé des réponses qui m'ont paru intéressantes. Alors, pas juste pour savoir. C'est vrai que c'est intéressant de savoir, mais ce qui est intéressant, c'est de s'approcher encore plus de Dieu. Donc, dans son évangile, Jean raconte la résurrection de Lazare. Mais c'est avant de partir vers Jérusalem, vers ce dernier voyage vers Jérusalem. Et cette histoire occupe tout le chapitre qui précède l'entrée de Jésus dans la ville sainte. Les trois autres évangélistes nous rapportent que pendant son dernier voyage vers Jérusalem, Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Il prend le temps de discuter sur la place que Jacques et Jean, les fils de Zébédée, auront au paradis. Et il prend le temps de guérir un ou deux aveugles selon les évangélistes. Mais rien de tout ça dans le texte de Jean. Par contre, les trois évangélistes ne parlent pas du tout de la résurrection de Lazare. Jean est le seul à le faire. Chaque événement nous parle de la gloire de Dieu, mais tous les narrateurs ne racontent pas la même chose. Alors pourquoi ? Cette question m'a amené à considérer le but que chacun des évangélistes s'est fixé. Alors je vais vous citer ce que Alfred Kuhn a écrit dans son livre 66 en 1, un petit livre très intéressant qui nous présente tous les livres de la Bible pour nous dire de quoi il parle en résumé. Donc il nous dit que Matthieu désire démontrer que Jésus est bien le Messie dont parlent les Écritures. Marc s'adresse à des Romains et il désire souligner la portée du salut destiné à toutes les nations. Luc souhaite présenter l'histoire de Jésus de manière à montrer sa signification et sa fiabilité, qu'il était vraiment le sauveur de tous les hommes. Et Jean, c'est lui-même qui indique le but de son livre. Il a écrit « Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. » Donc Jean 20, 31. Et Alfred Kuhn ajoute « j'ai chanté trop fort et j'ai les lèvres sèches. Merci les jeunes. Ayant contemplé la gloire du Fils de Dieu, il veut transmettre quelques reflets de cette gloire afin que ses lecteurs deviennent aussi participants de la vie divine manifestée en Jésus-Christ. » Donc voilà, nous sommes devant un acte qui manifeste bien la gloire de Dieu. La résurrection de Lazare, l'ami de Jésus. Et pour parvenir à son but, alors Jean nous rapporte les faits différemment des autres évangélistes. En lisant son évangile, on peut retrouver une structure que Nicolas Farelli nous précise dans son livre « Lire l'évangile selon Jean ». Il y a un court survol de l'ensemble du récit qui devrait permettre de mieux cerner comment il progresse. La structure globale de l'évangile est apparente dans l'encart ci-dessous. Il y a un prologue, chapitre 1, un épilogue, chapitre 21, et qui entoure le récit principal composé de deux parties. La première, qui se termine au chapitre 12, se concentre sur le ministère public de Jésus. La deuxième, qui commence au chapitre 13, merci Jean-Anaël, se focalise sur son départ du monde et son retour vers le Père. Donc moi, je vais vous proposer de nous arrêter sur le passage qui termine la narration du ministère public de Jésus, donc au niveau du chapitre 12, et qui se situe entre la résurrection de Lazare et l'entrée de Jésus à Jérusalem, parce que c'est ce passage qui m'a interpellée. Donc nous lisons Jean chapitre 12, les versets 1 à 11. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qui l'avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur, et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors, « Laisse-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Une foule de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent, non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus à cause de lui. Alors, lorsque je suis arrivée à ce moment de ma lecture, je n'avais donc pas retrouvé les épisodes que j'avais lus dans les autres évangiles. Je vous rappelle la guérison de l'aveugle. Jean cite une telle guérison, mais c'est bien avant dans son récit. La discussion de Jacques et Jean, l'annonce par Jésus de sa mort et sa résurrection. Pourquoi ne pas respecter l'ordre établi par les autres évangélistes ? Et par contre, je retrouve un épisode qui manque complètement chez les trois autres. Jean prend tout un chapitre pour décrire la résurrection de Lazare, donc il y a forcément une raison. J'ai encore réfléchi un peu plus loin et j'ai constaté que la structure du récit qui m'apparaissait était fort intéressante. En fait, les faits sont racontés comme au travers d'un miroir déformant. Dans Jean 12, je peux retenir les éléments suivants. Alors, prenons à partir de Jean 11, Jésus ressuscite Lazare. Lazare meurt de maladie et Jésus le ressuscite. Ensuite, en Jean 12, Jésus participe à un repas avec ses amis. Puis, on assiste au lavement des pieds de Jésus par Marie. Le fait qu'elle ait versé le parfum sur les pieds de Jésus pour les laver montre quel humble service elle était désireuse d'offrir. La coutume juive voulait que ce soit les esclaves, jamais les maîtres, qui lavent les pieds des invités avec de l'eau. Si nous continuons, Judas se montre avec son caractère fourbe en critiquant la perte d'argent. Et puis, la foule est attirée par les miracles de Jésus. Enfin, les chefs des prêtres se concertent pour faire mourir Jésus et même Lazare. Si on continue la lecture, Jésus entre à Jérusalem dans un monde partagé. Il y a ceux qui veulent le couronner, ceux qui veulent le faire mourir. Il y a tous des enseignements qu'il apporte. On arrive à la préparation de la Pâque et on retrouve les éléments que je viens citer, mais c'est Jésus qui vit tout complètement. On reverra ça tout de suite dans un tableau. Donc, à la fin de la deuxième partie de l'évangile de Jean, on voit que Judas est clairement identifié comme traître par Jésus. On voit Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Avant, c'était Marie qui lavait les pieds de Jésus et donc qui se place en position de serviteur. Jésus partage le repas de la Pâque avec ses disciples. Il les enseigne. La foule est encore là, mais là, elle rejette Jésus. Jésus meurt et ressuscite. Alors, depuis que je suis toute jeune, j'aime bien retrouver la structure littéraire des textes. voir comment les éléments se répondent, s'imbriquent pour nous amener au dénouement. Un peu comme quand on regarde un film policier. On essaye de comprendre qui est le coupable, quel est son mobile. L'auteur nous laisse soupçonner divers personnages pour nous guider vers la bonne solution. Et moi, j'ai éprouvé ce même plaisir en lisant et relisant notre texte du jour. Je l'avais là sous les yeux et je me disais, mais oui, tout est là. C'est comme la répétition générale de la scène finale. Des figurants ont pris place avant de s'effacer devant Jésus, le grand et le seul vrai personnage qui peut triompher. Ainsi, nous pouvons lire le début de ce chapitre 12 comme une préparation ou une répétition de ce qui va se passer dans les jours suivants. Donc, j'ai fait un petit tableau pour reprendre les éléments de ce qui se passe à Béthanie, de ce qui se passe à Jérusalem et de ce que nous pouvons en tirer pour notre vie et notre compréhension personnelle. Donc, à Béthanie, Lazare meurt et Jésus le ressuscite. À Jérusalem, c'est Jésus qui meurt sur la croix et qui ressuscite. Donc Jésus a vaincu la mort. Il est victorieux, il triomphe. À Béthanie, Jésus partage un repas avec ses amis. À Jérusalem, Jésus partage le repas de la Pâque avec les disciples. Même au travers de ses souffrances, de tout ce qu'il vit, Jésus reste avec les siens à tout moment, dans la joie comme dans la détresse. Marie oint les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux. À Jérusalem, c'est Jésus qui lave les pieds de ses disciples et les essuie avec un linge. Jésus est l'humble serviteur qui prend soin de nous avec amour. À Béthanie, Judas montre son caractère fourbe. Mais à Jérusalem, c'est Jésus qui désigne Judas comme le traître. Et Jésus, la conclusion que nous pouvons tirer, il connaît nos erreurs, nous ne pouvons rien lui cacher. Ce n'est pas pour autant qu'il nous rejette, comme il a désigné Judas. Enfin, à Béthanie, la foule acclame Jésus. À Jérusalem, la foule le rejette. Là, le scénario n'a pas été vraiment respecté entre la répétition et l'acte final. Ça nous fait réfléchir aussi si nous ne faisons que suivre la foule, le mouvement, nous serons juste ballottés sans que notre foi soit solide. Si nous reprenons le texte dans Jean 12, nous voyons comment la tension monte tout au long du récit. Alors Jésus est d'abord dans un moment calme et serein avec ses amis. Il faut avancer plus tôt. Voilà. Il partage un repas et Marie l'honore en l'oignant de parfum. On peut imaginer la joie de ces moments partagés entre personnes qui s'apprécient. Et si on voit tout ce déroulement comme un petit film, je vous parlais de film policier, on peut commencer à entendre, vous savez, la petite musique dramatique qui arrive là, qui va faire monter l'angoisse. Judas intervient, il critique, il juge, il condamne. La musique perd de son intensité parce qu'on voit la foule admirative arriver pour voir deux hommes. Jésus, le faiseur de miracles, et Lazare, le malade ressuscité. Mais pourtant, ce n'est qu'une pause brève dans cette musique. Le drame remonte en intensité car dans l'obscurité, des hommes complotent pour faire mourir ses deux amis. Avec ces quelques versets, Jean nous conduit déjà vers le dénouement final, nous conduit à imaginer que ça ne se passera pas bien. Il va y avoir mort, mort d'homme. Et c'est bien là le réel point de bascule. Humainement parlant, les choses vont devenir insupportables, le bien-aimé va périr. Mais Jean ne veut pas que nous restions à ce niveau. Il veut nous emmener à avoir foi, non envers un homme, remarquable entre tous, bien sûr, mais c'est envers le Messie qu'il veut que nous ayons foi, celui qui est le Fils de Dieu. Alors Nicolas Farelli, dans son livre, commente aussi cet éveil à la foi. Les disciples sont souvent personnifiés comme de fort mauvais élèves. Ils ne comprennent pas le message de Jésus, qui il est vraiment, pourquoi il réagit de telle ou telle manière, ou encore pourquoi il dit ceci ou cela. Il y a un nombre remarquable de malentendus, incompréhensions ou simples demandes d'éclaircissement de leur part dans cet évangile. Or, ce manque de savoir ou de compréhension sert une logique narrative très importante. Ainsi, à travers l'incompréhension des disciples, Jésus trouve le moyen de les enseigner davantage et par là même de les préparer à leur ministère une fois que sa propre mission sera accomplie. Ce processus se renouvelle à plusieurs reprises dans la première partie de l'évangile selon Jean. Premièrement, Jésus enseigne ou œuvre, mais ses disciples n'en comprennent pas le sens. Dans un deuxième temps, Jésus se sert de leurs questions ou de leurs remarques erronées pour clarifier son propos. Et troisièmement, il inclut ou invite les disciples à l'accompagner et à prendre part à son ministère. Il les enseigne et les prépare en vue de leur propre ministère. C'est seulement après la glorification de Jésus que les disciples ont pu relire les Écritures à sa lumière et les interpréter correctement. Et c'est aussi ce que nous faisons lors de notre lecture du texte biblique. Nous pouvons interpréter les événements que nous lisons parce que nous savons déjà que Jésus est notre Sauveur glorieux. Mais nous pouvons, nous devons aussi aller plus loin. D'autres commentateurs nous y encouragent. Donc c'est le commentaire biblique contemporain. Jean nous rappelle que ce qu'il a écrit ne représente qu'une petite partie de ce qu'il aurait pu dire sur les miracles accomplis par Jésus en présence des disciples. Jean, comme tous les autres disciples, hormis Judas Iscariote, est devenu le témoin de ce qu'ils ont entendu, vu et touché. Jean ne rapportait pas de preuves obtenues par oui-dire, mais des faits auxquels lui-même avait assisté en tant que disciple. Son récit est digne de foi, car les événements décrits se sont produits en public et il en a été lui-même témoin. Jean est également explicite en ce qui concerne sa motivation à écrire. Il a choisi de décrire les 7 signes miraculeux présentés dans cet évangile afin que ses lecteurs croient que Jésus est le Fils de Dieu. Les lecteurs ne reçoivent pas l'ordre de croire, mais il leur est demandé d'examiner la preuve apportée par les paroles et les actes de Jésus et de conclure que Jésus est bien ce qu'il dit de lui-même, le Christ, le Fils de Dieu. Et voilà là où Jean veut nous amener, c'est d'examiner. Et moi, en examinant, ma foi s'est affermie. En regardant de plus près les implications qui sont contenues dans notre texte du jour, j'ai touché de plus près combien Dieu avait annoncé, mis en place toutes choses avant que Jésus ne meure sur la croix. Et j'ai eu envie de partager cette recherche avec vous pour vous encourager à faire de même, afin que votre foi grandisse elle aussi. J'ai eu à cœur de nous interpeller tous à faire attention aux détails contenus dans les textes bibliques, à fouiller, à chercher, sans rester à une lecture superficielle, juste faite parce qu'il faut lire la Bible. De nous encourager à une lecture suivie aussi, car il y a les textes que nous aimons lire et relire en priorité, en laissant d'autres de côté. Si je n'avais pas lu les 4 évangiles à la suite, Dieu n'aurait pas pu m'interpeller pour chercher plus loin, parce que c'est en lisant les 4 évangiles que j'ai vu que les 3 premiers ne racontait pas du tout la même chose à ce moment de l'entrée de Jésus à Jérusalem que Jean. Nous sommes présents là dans Jean 12, 1 à 10, que nous venons de lire, 1 à 11. Nous sommes dans cette foule qui vient à Béthanie pour rencontrer Lazare et Jésus. Ah, il y a eu une erreur, on peut passer à la suivante. Alors ne soyons pas aussi parmi celles qui, quelques jours plus tard, va crier « Crucifie-le !» parce que nous n'aurons pas cherché à approfondir, à faire reposer sur de solides bases les sentiments de reconnaissance de notre cœur.